La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Pour la première fois en plus d'un mois de révolution inachevée au Soudan, des manifestants ont été tués à balles réelles la nuit dernière.
Et ce matin, la première chose que l'on peut dire en lisant la Soudan Tribune, c'est qu'il y a donc 5 morts parmi la foule qui tenait hier soir, comme chaque soir depuis plus d'un mois, le sit-in en plein centre de Khartoum. Il y a également un mort dans les rangs de l'armée soudanaise. Une armée qui se défend de toute responsabilité dans ses tirs et qui renvoie la faute sur, je cite, des éléments perturbateurs qui se seraient mêlés aux manifestants. Et pourtant, la Soudan Tribune s'interroge ce matin, comme d'ailleurs beaucoup de ceux qui ont assisté au bain de sang. Les tireurs, nous explique-t-on, portaient des uniformes des forces armées soudanaises, ou bien des FSR, les forces de soutien rapide, sorte de milices anti-émeutes dont les exactions sont craintes de longue date par les manifestants. Question aussi sur le moment où cette explosion de violence intervient, alors qu'elle avait pu être assez miraculeuse. Miraculeusement, il faut bien le dire, contenu depuis le début du soulèvement populaire en décembre dernier. On avait aussi réussi à éviter le pire il y a tout juste un mois, quand le dictateur Omar el-Béchir avait été écarté du pouvoir pour être remplacé par un gouvernement militaire. Et il n'est donc pas anodin, note The Middle East Eye, de voir que les tirs à balles réelles sur la foule sont intervenus au moment hier où se tenaient des négociations entre les forces civiles soudanaises qui mènent la révolution et les militaires qui se sont accaparés le pouvoir. Hier soir, les deux parties étaient ressorties optimiste des premiers pour parler. Elle s'était mise d'accord sur la structure du futur pouvoir transitionnel au Soudan en attendant la tenue d'une élection libre. On avançait donc dans le bon sens, à croire la BBC, mais le plus dur restait à faire ce mardi. Il fallait s'entendre sur la durée de la transition. Les généraux veulent des élections dans 2 ans. L'opposition politique préfère attendre 4 ans. Ça promettait aussi d'être tendu sur le partage du pouvoir entre forces civiles et militaires. Alors qu'il est, on ne sait pas si ces discussions pourtant décisives pour l'avenir du Soudan, vont pouvoir reprendre après ce qui s'est passé hier soir.
Et dans la presse allemande, le retour d'une grande question, d'un grand superfell, il faut le dire hein, quand même, Camille Magnard.
C'est vrai.
On a consacré un superfell au rachat donc de Monsanto par le groupe Bayer, et le superfell continue au point d'ailleurs que l'on se demande ce que diable le groupe Bayer est allé faire dans la galère Monsanto.
Oui, petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté ce superfell, le géant de la chimie allemande Bayer a racheté l'an dernier la société américaine Monsanto qui produit le désherbant Roundup au glyphosate. Et depuis, eh bien, c'est vrai que les ennuis s'accumulent. L'action Bayer en bourse connaît d'importantes turbulences à la baisse et ça ne devrait pas s'arranger aujourd'hui. Les nouveaux ennuis arrivent en fait de Californie, où la justice vient de reconnaître la responsabilité du Roundup, et donc de Monsanto, et donc de Bayer, dans les cancer dont souffre un couple d'Américains. Le San Francisco Chronicle a suivi le procès, il nous livre le verdict. Bayer, désormais propriétaire donc de l'herbicide Honey, va devoir verser près de 2 milliards de dollars aux septuagénaires Alva et Alberta Pilliod. Et forcément, ça fait réagir en Allemagne Der Spiegel. C'est le 3e procès perdu pour le Roundup, la 3e fois que le glyphosate est reconnu comme cancérogène par des juges californiens, et d'autres procès sont déjà prévus. En fait, le groupe Bayer reconnaît qu'il fait face à 13 400 plaintes, rien qu'aux États-Unis contre le seul Roundup. Voilà pour les comptes à rendre en justice, mais Bayer doit aussi gérer la mauvaise réputation de Monsanto. Enfin, surtout, ses mauvaises pratiques, en fait. La Frankfurter Allgemeine Zeitung revient sur le dernier scandale en date, né en France et désormais étendu à toute l'Europe. Ces listings de personnalités publiques, politiques, journalistes, qui étaient donc fichés par Monsanto selon leur opinion supposée sur le glyphosate, et selon surtout la possibilité ou non de les influencer, de les éduquer, selon le terme choisi par la société. C'est immoral, c'est illégal et c'est le genre d'affaire qui ne plaît pas du tout, il faut bien le dire, à l'opinion allemande. La mauvaise réputation de Monsanto n'a pas fini de faire de l'ombre à Bayer, écrit donc la FATS, quand la Neue Zürcher Zeitung à Zurich en tire cet enseignement. Quand on rachète une entreprise, il ne faut pas seulement se renseigner sur son catalogue de produits, mais aussi sur son image dans les médias, sur les cadavres potentiellement cachés dans ses placards. Le fait que Bayer ait appris seulement dans la presse française vendredi ses pratiques controversées, juge la NZZ, n'est vraiment pas glorieux pour le groupe allemand qui a d'ailleurs dû faire des excuses publiques hier.
Et puis on termine, Camille, avec Susan Sontag, l'auteur américaine connaît un retour en grâce remarqué dans la presse anglo-saxonne.
Alors non pas qu'elle ne soit jamais tombée en disgrâce, hein, elle qui était née en 1933 à New York, qui est morte en 2004, mais qui est enterrée au cimetière du Montparnasse à Paris. Elle, Susan Sontag, qui a milité pour les droits des femmes, des homosexuels, des peuples frappés par les guerres en ex-Yougoslavie ou en Irak notamment. Elle qui a signé des grands romans et essais comme Sur la photographie ou Notes sur Kemp. Eh bien, c'est justement ce dernier livre sur l'esthétique de l'extravagance qui lui a valu un retour sous les feux de la rampe la semaine dernière. L'essai avait été choisi pour inspirer le code vestimentaire du très prisé gala du Metropolitan Museum à New York. Et les stars, vous pourrez le vérifier sur de nombreux portfolios en ligne, ne se sont pas faites priver pour rivaliser justement de tenues extravagantes. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui ? C'est parce que dans The Guardian, on reparle de Susan Sontag pour évoquer une biographie à paraître. Son auteur, Benjamin Moser, y affirme que c'est en fait Sontag, elle seule, qui a écrit le livre le plus célèbre de celui avec qui elle s'était mariée à l'âge de 17 ans et qui n'est autre que l'universitaire américain Philippe Rieff. Ce livre, c'est une somme sur Sigmund Freud, l'esprit et le moraliste. Il a valu la reconnaissance dans la gauche intellectuelle américaine à Philippe Rieff. Alors donc, nous affirme-t-on 60 ans plus tard que c'est sa jeune épouse et ancienne étudiante qui l'aurait intégralement rédigé. Quand elle était encore mariée à Rieff, Susan Sontag a été créditée à la page des remerciements sur le livre. Mais elle a quand même. Mais quand elle a demandé le divorce, elle a dû accepter de renoncer à toute propriété intellectuelle. Et comme tant de femmes de lettres, elle s'est retrouvée invisibilisée, mise à l'écart pendant que Rieff lui récoltait les acclamations de la critique. Alors bien sûr, c'est ce même divorce qui a permis à Susan Sontag de faire ses propres choix de vie, de s'installer à Paris, de revendiquer son homosexualité, d'affirmer ses combats politiques et de devenir, comme l'écrit The Guardian, l'une des personnalités littéraires les plus remarquables de l'Amérique du XXe siècle. Mais pour cela, il aura fallu se défaire d'une relation toxique et dévorante avec un homme, professeur d'université, fort de sa reconnaissance d'intellectuel et d'homme de gauche. À l'heure où la vague MeToo n'a vraiment pas fini de balayer le petit monde de l'université à travers le monde, Susan Sontag, elle, n'a pas fini de nous montrer le chemin.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h43.